1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout sur Canal B du lundi au vendredi, 17h-18h, des nouveautés musicales, des infos culture, des infos concerts. Voilà le programme aujourd'hui du rock'n'roll et de la poésie. Oui, on écoutera deux extraits de l'excellent album Charge of the Love Brigade, notre disque d'or de la semaine pour Escapism. Dernier projet en date, on dira, de Jan Svenonius, anciennement notamment des Make-up. On l'a vu il n'y a pas très longtemps à Rennes avec XYZ, sa relation avec le niçois Michel Balducci. Là, il revient avec sa compagne pour un live ce lundi 23 mars. Ça sera au Tiana, un concert proposé par Crème Brûlée Records. L'occasion était trop belle pour sortir de son isolement, de son d'anonymat pratiquement. Cet album sorti déjà l'année dernière mais réédité en mars 2026 par le label Monotone Records. À part ça, White Denim, Spaghetta Orgasmonde et André Brasseur pour un split 45 tours des plus groovy. Et puis on ira prendre des nouvelles du label Black Milk Records avec un nouveau groupe plutôt noisy, April's Fish. Et puis pour la page culture, ce sera une longue discussion avec la poétesse, auteure, éditrice aussi Selim A. Atala Chetaoui, qui sera présente à Rennes ce jeudi 26 mars dans le cadre du festival Écrire et Dire numéro 2 proposé par la MJC du Grand Cordel. Et puis la session info concert, vous l'avez bien compris, je reviendrai sur ce concert de Escapism ce lundi au Tiana. On commence directement avec ce morceau assez minimaliste, on va dire. C'est guitare, voix, boîte à rythme et c'est à peu près tout. Rencontre électro, garage, new wave, country déviante, tout ça avec la voix assez classieuse de monsieur Svenonius, ancien Make-up, Chain and the Gang, XYZ et j'en passe. On écoute pour débuter le grand tout aujourd'hui cet extraordinaire morceau. Ils sont tous parfaits, vous allez beaucoup les entendre dans les plages musicales de Canal B. Soyez-en sûrs. On écoute le titre Black Gold. Bonne émission.
take a little bo peep, and I'm a sheep in your fold. You think I'm something to keep, to have and to hold. But one day, baby, you're gonna come home and you better be cold. You're gonna look out the window, say, oh no, mama, who chose?
Excellent nouveau titre pour le groupe White Denim de Los Angeles, ce titre Hired Hand numéro 2. Ça sortait au début du mois de mars et ça annonce un nouvel album, le 13e, tout justement intitulé 13, qui sortira le 24 avril. Très très chouette mélange entre bubblegum, country Et c'est un des aspects seulement de ce qu'on retrouvera sur l'album, parce qu'il a l'air très très varié, si on peut en juger déjà par le premier single God Created a Lock and Key, très très bon morceau pour White Denim. On poursuit avec une rencontre qu'on n'aurait pas forcément imaginée, mais pourquoi pas, et finalement ça tombe un peu sous le sens quand même, cette rencontre entre le vétéran André Brasseur, le roi de l'orgue Hammond en Belgique dans les années 1960-1970. Il s'acoquine avec les Spaghetta Orgasmonde, groupe belge plutôt contemporain et plutôt noisy et un peu punk aussi. Ils font un single 45 tours split entre les deux. André Brasseur sur une face, Spaghetta Orgasmonde sur l'autre. C'est grâce au label Rocker Hill Records à Charleroi en Belgique et Love Mazout Records qu'il sort. Il est disponible depuis le 20 mars dernier. Superbe pochette, rencontre vraiment inattendue et univers assez différent. Vous écouterez pour commencer Spaghetta Orgasmonde et leur titre Controllo Elettronico, et puis on aura droit tout à l'heure à ce splendide morceau de 1968 pour André Brasseur, Funky. un hommage vivant et même un passage de témoin, voire une conversation intergénérationnelle entre deux explorations du groove instrumental, presque instrumental pour Spaghetti Orgasmante qu'on écoutait tout à l'heure, et puis totalement instru avec quand même quelques petits cris pour André Brasseur, split single pour Rocker Hill Records et Love Mazout. On termine les nouveautés dans le grand tout avec maintenant, eh bien, une découverte, vous l'avez jamais entendu ce groupe, c'est probable, il s'appelle April's Fish, ils nous viennent du Grand Est, c'est comme ça que présente le label Black Milk Music Records, les petits protégés, les nouveaux petits poulains du label, plutôt jazzy d'habitude. Là, on est dans un univers entre dream pop, shoegaze, un peu noisy, assez lent. Et ces trois musiciens, Mike, Fictra et Léo, qui viennent de Nancy, ils sont complètement bloqués dans les années 1990. Voici leur titre, Lizzie's Room. C'est sensible, c'est un peu électrique tout de même, c'est bien réussi. Et juste après, eh bien, on passera à la page culture de l'émission et la discussion avec la poétesse Selim A. Attala Chetaoui à voir au festival Écrire et Dire jeudi 26 mars, ce jeudi, pour une lecture-rencontre avec Hugo Titem de Lavaux à la MJC du Grand Cordel, dont le festival, donc, je le répète, Écrire et Dire numéro 2. We'll be right back. On va parler dans quelques instants dans la page culture de l'émission Le Grand Tout avec Selima Atala Chetaoui qui sera présente jeudi soir dans le cadre d'une lecture rencontre proposée par le festival Écrire et Dire, deuxième édition. C'est porté par la MJC du Grand Cordel. Lecture performée, plutôt presque concert, je ne sais pas exactement, on va voir avec Selima. Et puis la présence aussi de Hugo Titem de Lavaux qui sera notre invité quant à lui dans l'émission de mardi. Bonjour Selima.
Bonjour Yann.
Tu es poétesse, performeur, artiste, tu as grandi en Tunisie, tu vis à Paris, tu fais un petit peu l'entre-deux de temps en temps quand même si pas aussi souvent peut-être que tu aimerais. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1476,22 km entre Paris et Tunis. Tu nous parleras et tu parleras au public pas seulement en lisant de la poésie mais en la disant, en la vivant même, parce que la poésie que tu crées, c'est de la poésie tout ce qu'elle a de plus vivante.
Oui, complètement. La lecture et le fait de dire mes textes sur scène, c'est quelque chose qui est complètement, vraiment une partie intégrante de mon travail. Aussi importante, voire plus importante que l'écriture. Les deux, en tout cas, tous mes textes sont faits pour exister sur scène à un moment ou à un autre. Et c'est ce qui va se passer à Rennes jeudi.
Alors la performance est importante puisque tu as aussi un projet qui t'associe à des musiciens. Ils ne seront pas avec toi jeudi à Rennes.
Non, ils ne seront pas avec moi jeudi à Rennes, mais il y aura de la musique. C'est moi qui vais m'accompagner. En fait, les musiciens avec qui je travaille, ils sont également DJ. On a commencé ensemble sur des DJ sets improvisés. Et en fait, progressivement, j'ai aussi un petit peu appris à utiliser des platines. Et donc, il y a des dates où je suis seule derrière mes platines.
Je vais citer cette phrase repérée sur ton profil Spotify. « Je veux juste du banal qui se répète jusqu'à l'ennui, mais comme je ne tiens pas en place, je monte sur scène et j'écris. » Comment tu es montée sur scène la première fois ?
Je suis montée sur scène un petit peu par hasard. J'avais fait un tout petit peu de théâtre amateur, mais c'était vraiment marginal. J'ai dû participer à deux pièces jusqu'à mes 25 ans, quoi. Et puis en fait, il y a eu, moi, mon compagnon, il fait du stand-up. Et parfois, il allait à des scènes ouvertes où il était possible de faire d'autres trucs que du stand-up. Et donc, il y a un jour où moi, j'écrivais un petit peu des poèmes à ce moment-là. Il m'avait dit, bah, écris-toi aussi et t'as qu'à lire un de tes textes. Et je l'ai fait. Et c'était vraiment super. J'ai adoré l'expérience. Et du coup, je suis un peu devenue accro aux scènes ouvertes. Et j'en ai fait pendant plusieurs années. Je crois que j'allais au moins à 5 ou 6 open mic par semaine, voire parfois plusieurs par soir. Et puis ça s'est un peu fait tout seul ensuite. J'ai eu quelques opportunités qui m'ont permis de faire des dates dans des institutions et puis voilà.
Il y a eu quelques publications hein, au Pieu l'année dernière et puis aussi un peu plus tôt auparavant des odeurs de Brésel, de barbecue et de weed. La participation à un texte collectif, une anthologie, poème à l'usage d'un monde en flamme qui est paru tout récemment au Castor Astral. Alors évidemment les deux aspects sont importants dans ton travail, l'écriture et le fait de le vivre et de le faire vivre, le vivre en live. Ce qui est important aussi c'est le fait d'écrire et de dire en plusieurs langues. Alors comment est-ce que tu vois ces circulations linguistiques entre des textes en français, en anglais, en arabe tunisien tu le sais à la base si ça va aller dans l'une ou l'autre des langues ou les trois ?
En fait, le fait d'écrire en plusieurs langues, bien que en fait, moi je parle plusieurs langues et que dans ma vie de tous les jours, je les utilise de manière très intuitive et mélangée, c'est quand même plutôt quelque chose que je fais qui me coûte quelque chose. C'est un effort que je fais pour écrire en plusieurs langues. Parce que je me suis rendu compte à un moment qu'il n'y avait pas de raison de m'interdire l'usage de l'ensemble des langues que je maîtrise et de ce qu'on appelle du code switching en fait en linguistique, le fait de passer d'une langue à l'autre de manière naturelle quand on est bilingue ou trilingue. Et je me suis rendu compte que je me l'interdisais parce que j'avais appris vraiment plus à écrire un peu comme à l'école de manière assez normative, même si mon écriture n'est pas très normative, mais il y avait ce truc-là dans la langue où j'étais un peu coincée. Et donc, en fait, c'est plutôt un exercice que je fais de traduction, souvent, où j'ai des passages, je me dis, bon, là, il y aurait quand même, ça serait intéressant d'avoir des mots plutôt en anglais ou plutôt en arabe, pour essayer de recréer de manière un petit peu artificielle, finalement, ce code switching qui vient naturellement quand je parle. Mais dans tous les cas, même quand il n'y a pas ce mélange des langues, je pense qu'il y a quelque chose de très polyphonique dans mon travail, parce que moi, j'ai toujours, justement, cette tradition-là des scènes ouvertes dans laquelle je me suis insérée, a fait que j'ai eu un rapport à l'écriture qui a toujours été très collectif. J'ai moi-même un collectif qui s'appelle Fun, où on travaille autour de l'éco-poésie, on fait une revue, etc. Et par exemple, à chaque numéro de la revue, on publie un texte qu'on écrit à 8 mains, parce que il y a ce travail-là qui est collectif. L'anthologie dont tu parlais, Au Castor Astral, en fait, c'est moi qui je l'ai co-dirigée avec 2 personnes, parce que pareil, on avait envie de faire résonner des voix ensemble. Donc je pense qu'il y a cette multiplicité des langues, mais surtout une multiplicité de voix qui est très importante pour moi dans mon travail. Et la multiplicité de voix, je pense qu'elle vient plus naturellement que la multiplicité de langues où je dois vraiment faire un effort pour la faire exister.
Ton écriture est traversée par des enjeux politiques assez forts, hein, les droits des femmes, les minorités de genre, les migrations. C'est né, semble-t-il, l'écriture chez toi d'une forme de révolte. Alors, contre quoi ou contre qui cette révolte s'est-elle d'abord construite ?
Ben, je pense en fait le premier texte où j'ai eu vraiment besoin d'essayer de le publier quelque part, c'était sur les réseaux sociaux à l'époque parce que personne ne savait qui j'étais. C'était au moment de la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers qui avaient fait je ne sais pas combien de mois de grève dans certaines facs, dont Paris 3 où j'étais à l'époque étudiante. Et étant moi-même concernée par cette question, j'étais moi-même une étudiante étrangère en France, après avoir été à l'école française en Tunisie, etc. J'avais trouvé ça fou cette proposition de loi. Et donc, c'est la première fois où, en poème que j'ai écrit, j'ai eu vraiment la sensation qu'il était important que je trouve une manière de le partager avec des gens. Et donc c'était ça. Donc, très souvent, c'est disons, des injustices politiques et systémiques qui font qu'il y a peut-être une tentative d'effacement de certains pans de l'histoire, je dirais. Parce que moi-même, je suis concernée par cette question. J'ai grandi dans ces espaces d'école française depuis que j'ai 3 ans. Et donc, mais arrivée en France, j'ai été très vite confrontée à des galères de papier qui étaient assez inattendues et qui étaient principalement liées au fait que moi, j'ai plutôt choisi de faire des études en sciences sociales. J'ai fait des études de psycho puis des études de lettres. Et qu'en fait, la manière avec laquelle il était prévu pour les étudiants étrangers de faire un changement de statut, c'était directement lié à un seuil de revenu qui en fait n'était pas possible quand on avait fait ce type d'études. C'était des seuils de revenus qui étaient plutôt calqués sur des études d'ingénieur ou des études de commerce. Et en fait, très vite, je me suis retrouvée dans des galères pas possibles. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'artiste, c'était pareil. J'ai mis 13 ans à obtenir un passeport talent artiste. Avant ça, j'avais des titres de séjour étudiant en répétition. Et pour moi, j'ai trouvé ça complètement fou parce que d'un point de vue culturel, et c'était un peu la promesse des écoles françaises à l'étranger, on imaginait que notre intégration en France était censée être facilitée. Et elle était facilitée évidemment sur le plan de la culture et de la langue, mais elle n'était pas du tout sur le plan politique, ça a été comme une espèce de trahison, je pense, quelque part. Et ça a beaucoup, beaucoup travaillé mon écriture.
À propos d'ailleurs de migration, j'ai extrait un fragment d'un texte que j'ai lu de toi et il m'a paru intéressant. Peut-être que tu nous en fasses une lecture. Alors c'est assez court, je te laisse le soin si tu veux, Selima, de nous le lire, ou le dire.
On est né sur le même bout géologique. On est lié par la même mer. L'Europe et l'Afrique auraient pu n'être qu'une. On aurait pu migrer comme des hirondelles du nord au sud, du sud au nord, en quête de douceur. On aurait pu être libre d'aller, de traverser, d'explorer, de sillonner la même croûte sans visa, sans rejet pour les perdantes de la Méditerranée. On aurait pu se fendre du sourire de l'immensité de nos terres partagées.
Tout est bien dans ce « on aurait pu » et il semblerait que ce ne soit pas possible. Alors, est-ce que justement la poésie te permet à la fois de pointer des dérives inacceptables en termes de morale, en termes de vie ensemble tout simplement, et puis aussi de proposer une alternative à ce monde destructeur ?
Oui, je pense que la poésie, moi je pense que quand on arrive à imaginer et à rêver suffisamment fort, ça nous donne la force d'espérer changer les choses. Je pense que c'est pas forcément une position morale, enfin c'est une position morale, mais c'est dans le sens où il y a vraiment une espèce d'échelonnage, de hiérarchie dans ce qui est possible de faire et d'espérer selon l'endroit où on vit, et ça c'est complètement lié au hasard géographique qui fait qu'on est ici ou là. Donc moi je pense que c'est cette absurdité et cette injustice qui est vraiment inhérente à la localisation géographique d'une naissance que je cherche à dénoncer. Et c'est vraiment ça qui existe dans mon écriture, et je pense aussi parce que justement moi, même si comme je le disais, j'ai eu ces galères de papier, etc., elles restent complètement marginales par rapport à la situation de quelqu'un qui migre illégalement parce que il n'a pas le choix de partir comme ça de son pays parce que ça lui aurait été impossible de le faire dans des conditions légales. Et je pense que moi, du fait du capital culturel que j'ai et de ma capacité à manipuler des concepts et à les transformer en poèmes impactants. Et qui peuvent peut-être plus toucher que des discours politiques, je considère que ça fait partie d'une forme de responsabilité que j'ai de parler de ces sujets. Après, je ne parle pas que de ces sujets-là. J'ai des textes qui parlent de complètement autre chose. Par exemple, mon livre Au Pieux, c'est un livre qui parle beaucoup, qui dénonce plus le capitalisme et les espèces d'injonctions à la productivité perpétuelle qu'on vit. Je ne parle pas que de migration dans mon travail, mais disons que c'est un sujet sur lequel je me suis retrouvée très régulièrement impliquée.
Justement, tu cites ce livre, Au Pieux, et il y a cette image du lit, hein, de l'immobilité, de la décomposition même. Hein. Tu parles de pourrissement dans une petite vidéo qui présentait le livre. Comment ce temps d'inertie que tu passes au pieux, que tu as passé au pieux, devient-il une matière poétique ?
Je pense que c'est deux temps. Il y a un temps comme ça où les choses macèrent un peu dans ma tête et finissent par être prêtes à être dites. C'est aussi vraiment lié à quelque chose qui est mon fonctionnement psychique. Moi, j'ai un trouble de l'attention avec hyperactivité assez sévère. Et ça implique qu'il y a des périodes où je fais beaucoup de choses et d'autres où je suis un peu cramée d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que ces longues phases que je passais au pieux, c'était parce que j'avais du mal à réguler mon énergie. Et donc, j'ai besoin, disons, de m'autoriser des petits moments de où je fais pas grand chose assez régulièrement pour pas me retrouver ensuite dans un espèce d'état de burn-out qui peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois où je suis complètement bloquée. Et je pense que ce livre, en fait, il vient explorer ces états où je me sens complètement paralysée et incapable d'avancer ou de faire quoi que ce soit de productif et de voir comment je peux trouver un équilibre entre obéir aux injonctions au point de me cramer et en même temps et donc pas faire ça. Et en même temps, pas rien faire non plus et trouver quelles injonctions je peux me fixer moi-même qui me permettent de faire quelque chose de productif mais qui soit pas surproductif.
Et tu parles de miettes de vie hein, dans cette même petite vidéo. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire, oui, je pense que ton écriture procède par fragments, comme ça c'est des fragments qui viennent s'additionner les uns ou les autres. Alors, tu cherches aussi, pourtant, une sorte de poème fleuve. Comment tu vois les choses entre le fragment et puis la longueur incroyable?
Disons que c'est fragmentaire dans le sens où je ne cherche pas où je vais quand je commence à écrire quelque chose. Par exemple, Au Pieux, c'est un texte que j'ai écrit à l'origine sur mon téléphone dans le métro. Et donc, à chaque fois que je montais dans le métro pendant une dizaine de jours, je prenais une note la même et puis j'écrivais dessus. Et j'avais pas d'objectif de livre ou quoi que ce soit. C'était vraiment un peu dans de l'écriture automatique finalement. Et en fait, après coup, il y a un jour où j'avais envie d'envoyer un texte pour un concours de je sais plus quoi, j'ai repris ces notes, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 25 ou 30 pages, que ces fragments s'étaient additionnés et qui formaient une espèce de fleuve un peu cohérent. Et donc évidemment, j'ai beaucoup retravaillé ce texte, mais c'était un même flux des idées qui se rejoignaient beaucoup. Et donc ça faisait sens pour moi d'en faire un seul long poème plutôt que d'essayer de fragmenter encore plus. Donc la fragmentation, elle est plus dans la manière avec laquelle c'est construit. C'est comme si j'avais plusieurs, un peu dans une approche un petit peu phénoménologique, c'est essayer de prendre un sujet et de l'aborder par plusieurs angles. Mais en fait, c'est tous ces angles, ils vont vers le même sillon à la fin. C'est comme toutes les rivières qui se rejoignent en un fleuve.
Plusieurs rivières comme ça irriguent la poésie chez notre invité aujourd'hui. On retrouve Salima Attala-Jetaoui juste après qu'on a entendu. Eh bien, ce titre, Le pays qu'on aime. Voilà, une autre rivière. La performance en live avec un projet Mouja dont on verra bientôt un EP, il me semble. On écoute d'abord, on en reparle après.
Je me dis souvent qu'entre les deux, il n'y a rien. Simplement quelques pas. Je les vois comme ça, ces kilomètres, leur kilo de carbone ne compte pas. Non, les deux rives sont côte à côte. Moi aussi, je vais chez mes parents, c'est facile, relou même parfois, comme pour mes amis qui y vont le dimanche midi, un peu en gueule de bois face au poulet rôti. J'aimerais bien que ça soit tellement fréquent que ça en devienne relou, mais c'est pas vrai, pour moi c'est pas facile d'aller manger un rôti chez mes parents le dimanche midi, parce qu'entre mon domicile et celui de mes parents, il y a en réalité 1476,22 km, soit beaucoup plus qu'un pas. Il y a le monde qu'on aime et celui que l'on quitte. Il y a les odeurs qui rappellent l'enfance. Il y a les départs qu'on croyait éphémères. Un jour on découvre qu'on a quitté sa terre.
Hip-hop, 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 hip-hop début, j'avais vraiment l'impression que c'était rien, juste un pas. J'y allais à toutes les vacances universitaires. Je me disais parfois qu'un vol Paris-Tunis, ça me faisait le même effet qu'un trajet sur la 6, mais au bout de quelques années, c'est devenu lourd. En carbone, en valise, en frontières et en bout de vie qui flotte au-dessus de la mer. Maintenant, je sais plus ce que ça fait vraiment de vivre là-bas. Cite le prouro d'Arbik, ou Shkoubaf Lille. Toutes les habitudes qui continuent sans moi. Je rentre pétri du remords d'être parti. Et tout le monde fait semblant que j'ai encore une place. Mais j'ai construit ailleurs, je sais plus que partir. Il n'y aura pas de retour, je me dis peut-être qu'un jour je me mens. Je le sais, mais sans me mentir, je serai trop triste pour vivre. Il y a le monde qu'on aime et celui que l'on quitte. Il y a les odeurs qui rappellent l'enfance. Il y a les départs qu'on croyait éphémères. Un jour on découvre qu'on a quitté sa terre. On aime, on le quitte. On aime, on le quitte.
Le monde qu'on aime, pourquoi se contenter d'un pays ? Le monde, bien sûr, Selima Attala, Jetaoui qu'on écoutait à l'instant, elle sera présente aux côtés de Hugo Titem de Lavaux, jeudi soir à Rennes, à la MJC du Grand Cordel, c'est dans le cadre du festival Écrire et Dire, lecture rencontre, lecture performée, on dira plutôt un concert poétique, c'est entre deux rives, et on le voit bien, Selima, tu peux pas rester dans un seul champ de la poésie, il faut que tu le déplaces aussi, à travers des ouvrages collectifs, à travers l'écriture, à travers les performances, et puis avec aussi ce projet-là, Mouja, c'est la continuité, c'est le fait d'être poétesse et d'avoir envie de l'ajouter, cette poésie, à la musique, à la vidéo, en collectif, à trois, en live. Comment c'est né ça, Mouja ?
Et ben en fait au début, quand j'avais rencontré ces deux musiciens, Paul et Adrien, avec qui je travaille maintenant plus de 4 ans, on s'est rencontrés on était programmés sur un même événement où eux ils étaient DJ et moi je faisais de la poésie. Et on a essayé de faire quelque chose ensemble, mais qui était complètement improvisé, où eux ils ont joué de la musique entre house et techno. Et moi j'ai dit des textes, mais c'était vraiment pas préparé. On s'est rencontrés quelques minutes avant de faire cette première performance ensemble sur scène. Mais en fait, on a adoré l'expérience, on a trouvé ça très intéressant. Moi, ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer des choses avec de la musique électronique. Eux, ça faisait un moment qu'ils faisaient de la musique électronique sans voix. Et donc, c'était intéressant pour eux d'essayer de trouver une place pour le texte là-dedans. Et donc, on a commencé comme ça, par des dates improvisées qu'on a faites à de très nombreuses reprises. À un moment, moi, j'avais un collectif qui s'appelait Cargo, où on a invité des poètes et des poétesses à venir avec nous à dire leurs textes sur de la musique électronique. Donc, Paul et Adrien, c'était les DJ de ce projet. Et puis après, moi, j'ai gagné un tremplin musical pour des projets perso de musique où je composais moi-même des espèces de tapis sonores pour créer des poèmes sonores faits pour être écoutés. Et avec ça, j'ai gagné un tremplin musical à la fac où j'étudiais, la fac de lettres où j'étais étudiante à Cergy. Et là, je me suis retrouvée accompagnée par une SMAC, une grande salle de musique, qui mettait à disposition des studios, des salles de répète, la possibilité de faire des résidences dans des salles hyper bien équipées, etc. Et étant donné que moi, je suis vraiment très autodidacte dans la musique et que j'ai pas des capacités de composition qui sont transcendantales, bah, j'ai appelé un peu Paul et Adrien à la rescousse pour qu'ils se mettent à eux composer pour ce projet. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce projet dont le premier EP s'appellera Mouja et qui tourne autour de mes textes, qui donc va mélanger musique électronique, spoken word et puis parfois des inspirations un peu jazz et un peu rock.
Alors, qu'est-ce que justement la performance accompagnée de musique électronique en live te permet d'exprimer que l'écriture seule n'arrive pas à dire ?
C'est pas si c'est l'écriture seule qui n'arrive pas à dire. Je pense que moi, je le vois plus comme une manière de faire accéder à à l'écriture des personnes qui pourraient être intimidées par le livre, qui par exemple pourraient trouver que la poésie, jamais elles oseraient ouvrir un livre de poésie, ce qui est le cas d'énormément de personnes. Moi, ça n'a jamais été mon cas parce que je venais d'une famille où la poésie était très présente, mais je sais que, en tout cas, je le vois souvent, notamment quand j'interviens dans des établissements scolaires, même quand je discute avec des copaines qui ne sont pas dans la même dynamique que moi, je sais que la poésie, ça paraît un peu flippant quoi, de l'extérieur. Plein de gens ne vont jamais s'autoriser à ouvrir un livre de poésie, même si ça peut les intéresser. Et moi, je trouve qu'en empruntant au code peut-être plus du monde de la fête, en faisant ça dans des espaces où on peut avoir une bière à la main, être debout, aller fumer des clopes et revenir, enfin vraiment pas se sentir captif sur son siège ou pas se sentir obligé de lire dans son coin, on peut avoir accès à une autre manière de vivre la poésie et ça peut ensuite donner envie de lire des livres. Ou peut-être que ça donnera jamais envie de lire des livres, peut-être qu'on continuera juste à aller écouter des poèmes sur scène. Et donc moi, la musique électronique aussi, c'est parce que je fais des longues performances. Je fais des performances qui parfois durent une heure ou deux. Et je trouve qu'une heure ou deux en voix nue, ça devient un peu exigeant en termes attentionnels pour tout le monde. Et ça oblige à vraiment focaliser son attention sur le texte et se mobiliser. Là où quand on met de la musique, bah, on passe sur une écoute qui peut être un peu plus libre, un peu plus flottante. Il y aura sans doute des moments où on va décrocher du sens du texte. Et moi, je pense qu'en poésie, de toute façon, ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Et il y a des moments où on n'écoute pas vraiment le texte, on est juste on est vraiment beaucoup plus sur les émotions, les images qu'il peut susciter en nous. Moi, je dis souvent que bien que je sois auteur de poésie et que j'ai publié maintenant plusieurs livres, le plus souvent, quand j'écoute une performance ou quand je lis un poème pour la première fois, je comprends presque rien, mais je sais que j'en ressors avec plein d'émotions, plein d'images, des couleurs, des choses qui me sont venues. Et en fait, c'est très bien. Et je pense que quand on commence à mettre comme ça de la musique, de la vidéo, ben en fait, ça oblige à cette écoute qui est plus libre et qui ne cherche pas à s'accrocher au sens.
Tu me disais, tu es issu d'une famille avec un capital culturel et tu as même eu un grand-père poète, en fait. Est-ce que il t'est arrivé de lire sa poésie, je suppose, et qu'est-ce que tu pourrais en faire sur une scène aujourd'hui? Rien, peut-être?
Ben en fait, ce n'était pas mon grand-père, c'était mon arrière-grand-père.
Arrière-grand-père, pardon.
Je ne l'ai jamais connu. Et en fait, lui, il écrivait en arabe, donc je comprends très très mal sa poésie parce que moi, je lis, j'écris l'arabe, mais son arabe à lui était extrêmement difficile. C'est vraiment une langue très très travaillée et qui n'est pas accessible malheureusement ou qui n'est vraiment. Enfin, ça me coûte beaucoup d'efforts. Donc, il est arrivé une fois que je lis un de ses poèmes sur scène ainsi que sa traduction, mais sinon, c'est plutôt une poésie qui m'est un peu inaccessible. Et justement, ça a été l'objet de beaucoup de mon travail, de me demander qu'est-ce qui avait fait que je m'étais retrouvée un peu privée de cette langue qui est celle de mon pays, bien que je la maîtrise, mais que je ne la maîtrise pas suffisamment pour vraiment en faire quelque chose.
Tu le précisais tout à l'heure, et tu as co-dirigé une anthologie intitulée « Poèmes à l'usage d'un monde en flammes ». C'est paru, je le répète, chez le Castor Astral. Selon toi, si tu l'as un peu dit, qu'est-ce que la poésie peut encore faire dans un monde qui brûle ?
Je pense que ça dépend des moments. Moi, je me dis toujours que parfois, il y a des jours où je suis un peu désespérée. Et à ce moment-là, ça peut me faire du bien de retrouver un texte. Je lisais récemment une citation, je ne sais plus du tout de qui disait « Les personnes qui aiment vraiment la littérature, c'est des gens qui pensent qu'un livre peut leur sauver la vie et qu'il y aura une phrase sur laquelle ils vont tomber un jour qui va complètement changer leur perspective et leur redonner le goût de vivre. » Et moi, il y a tellement de livres qui ont changé mon existence et qui m'ont redonné espoir, qui m'ont suscité des émotions très très fortes. J'ai l'espoir de réussir à en écrire ou à en constituer aujourd'hui pour nous aider à tenir parce qu'on vit dans un monde qui déborde de violence, qui devient de plus en plus violent tous les jours. Et je pense que avant je pensais qu'on pouvait vraiment changer des opinions avec la littérature. Je pense que c'est encore possible, mais je pense que ça permet surtout de pas désespérer et de continuer à trouver des manières de vivre dans un monde qui nous incite quand même beaucoup à être dans une forme de marasme, mais pour des raisons, il y a des raisons pertinentes, il y a des guerres, il y a des choses horribles qui arrivent. Mais en fait, si ça va durer longtemps, on peut pas être complètement déprimé tout le temps, parce que ça va pas changer la situation et ça va pas non plus. On va juste tous se dépérir, quoi.
Pour terminer, Selima, peut-être l'idée du collectif. Tu es impliquée donc dans des collectifs comme Fun ou Poésie Vénère, ça a été le cas. Qu'est-ce que le collectif permet que la pratique individuelle ne permet pas ?
Là, je pense que le collectif, ça nous déplace tout le temps. C'est-à-dire que quand on est dans de la pratique individuelle, on finit par tomber nous-mêmes sur nos propres obsessions et tourner un petit peu en boucle. Moi, il y a des fois où je commence à écrire et puis j'arrête pas de me dire « mais c'est pas possible, ça, tu en as déjà parlé ». ça aussi t'en as déjà parlé, ça aussi t'en as déjà parlé, ça devient interminable. Et en fait, dès qu'on commence à faire du collectif, on est obligé d'être confronté à d'autres opinions. Et je pense que ça nous oblige d'une part à affirmer les nôtres, parce que quand on va avoir une idée, faut la défendre, et ça c'est bien. Ça nous fait aussi changer d'opinion. Parfois on se rend compte qu'on avait tort ou qu'on voit une manière de faire qui est meilleure que la nôtre, et ça aussi c'est hyper important. Et je pense que l'intelligence collective, elle permet d'aller plus loin donc, et de créer des choses qui sont beaucoup plus belles. Moi, il y a des soirées, des performances que j'ai organisées ou auxquelles j'ai participé. Elles n'auraient jamais pu avoir cette tête-là si on n'était pas en groupe pour les faire. C'est aussi des espaces, je pense, qui sont très importants pour continuer à lutter un peu contre la violence qui se passe, qui a lieu aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Parce que ça peut être des espaces de grande joie et qui aident à garder un peu d'énergie dans le monde dans lequel on vit.
De Selima Atala Chetaoui, vous avez la possibilité de lire des odeurs de bretzel, de barbecue et de weed, et puis aussi au pieu, sans oublier donc cette anthologie Poèmes à l'usage du monde en flammes. Et puis vous avez la possibilité de retrouver Selima jeudi soir, ce sera à la MJC du Grand Cordel dans le cadre du festival Écrire et Dire, lecture rencontre avec aussi Hugo Titem de Lavaux. Qu'est-ce que tu vas faire, Selima, pour préparer cette soirée-là?
Je vais préparer ma setlist, parce que du coup, comme je disais, je vais diffuser de la musique. Il faut que je révise ma setlist et l'enchaînement de mes textes pour voir comment j'organise cette traversée. C'est un peu la chose que je décide généralement à la dernière minute. Je ne sais pas trop où je vais avant de monter sur scène, jusqu'à très peu de temps avant de monter sur scène, parce que ça m'aide, je pense, à être présente à moi-même au moment où je suis là.
Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Selima. On retrouve Hugo Titem de Lavaux dans l'émission de mardi dans Le Grand Tout.
Ne pas se laisser tomber. Se tenir. Tenir droit. Se tenir droit. Droit dans ses bottes, droit dans ses docks qui tiennent les talons d'Achille. Pas que les talons. Tout le corps plein de bleu, plein de trous, de tout. Tenir. Se tenir. Tenir droit, 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 dos droit, ventre droit, menton droit, tête haute, regard serré, arrogance mesurée. On ne se laisse pas tomber. Marche martiale vers soi pour tenter d'être soi, tenir, je sais, tu sais, il, elle, elle, on sait, nous savons, vous savez, il, elle, elle, savent, on sait qui on est. Normalement, à peu près. Pas tous les jours, pas trop. Aujourd'hui, ce matin, c'est pas hyper clair. C'est rarement clair le matin pendant que les réveils sonnent, 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 ressonnent et qu'on voudrait rester là dans ce lit plein de miettes alors qu'on s'était promis de ne plus rien manger au lit. Mais le café sec, les deux doubles enfilés à jeun pour désengluer les yeux écrasés de sommeil, les yeux irrités par les poils du chat qui est parfois là, les poils qui se collent au drap sans jamais vouloir disparaître et qui collent les yeux qu'il faut décoller à coups de café pas sec parce que le café sec donne des aigreurs d'estomac. Alors il ne faut pas le boire sec. Alors on prend une tartine, un petit bol de muesli pour accompagner les deux doubles administrés dans le lit, les deux doubles qui font survivre au jour qui arrive. Le jour qui donne envie de rester dans le lit plein de miettes, de poils de chat et de taches de café. Le jour qui fait crever d'envie de macérer dans son marc de crasse. Le cyprès désire vivre. Le cyprès désire vivre. Il tape contre les parois, part de Mouladara, va jusqu'à sa Asrara. Il pousse fort. La jouissance ajoute au désir de la force, frotter, frotter le sexe. Le cyprès grimpe, grimpe, grimpe comme Jack sur son haricot tous les jours. Un peu plus haut, les branches s'approchent du soleil, brûle, tombe presque, grimpe toujours. Pas de limite au désir d'être quelque chose quand on se sent n'être rien. Rien, du tout, plus, rien, du tout, jamais, rien, du tout, cramé. Trois, 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 trois dans ses tocs aux semelles éliminées, ventre rentré, fesses serrées, tête levée, racine pendant sa grippe pour exister. Les temps s'enflamment, les jeux de feu consomment ce qui reste, les étalages toujours pleins, les supermarchés, l'abondance dégoûtante, rassurante, écœurante, dans les allées toujours, partout, en vérité, téléphone à la main, un même sur Instagram, un autre, encore un autre, et un autre, et puis un autre, ça ne s'arrête pas. Téléphone déchargé, on dégaine la batterie externe, on scroll, cerveau branché. Les rilles roulent, s'enroulent autour de cyprès, c'est triste, parfois c'est nul, souvent c'est drôle, parfois. Rire court, aboiement sans joie, sombre dans la merde, scroll.
mer de vie, miner, noyer, dopamine saturée, ne pas se laisser noyer, ne pas se laisser sombrer, tenir, tenir fort, tête droite, ventre rentré, face serrée contre le vent, acide devant le pic, le pic remue, l'embrée partout terré, trop vite, les graines pourrissent dans le bouton mouillé. C'est des haricots et des fèves et des bougies, je vous en faisais faire pousser à l'école dans des petits gobelets. C'est trop petit pour s'y prêter. Ennui, envie, désir faussaire, doigt contre sexe, frotter, frotter, frotter encore, contraction anédonique. Le corps convulse puis se tient droit, roide comme un mort de trou rouge au côté droit, immobile à jamais, il ne marche plus. Il n'est pas tout à fait mort, l'espoir subsiste encore, il pourrait commander à ses muscles quelque chose, mais le désir se taire, enfermé à l'intérieur, dans la poitrine encore tiède pour quelque temps, on ne sait pas trop pour combien de temps, encore juste un point serré, un point d'honneur, on dit à essayer de vivre, de survivre, de ne pas se laisser tomber, et pourtant malgré tous les cafés, le corps roide reste recroquevillé. Tenir. Petite graine ballottée par les vents, traînée de rive en rive, petit poussé rêveur, la logorée ne vaut rien, rien ne tient, tous s'étiole en miettes qui grattent pendant la nuit, pendant l'insomnie, quand on regrette les avoir semés. Tiny little crumbs s'envolent, se mélangent à l'air qui souffle, s'essouffle sur le sable aiguisé. Voilà nos rêves, tombeaux brisés.
C'était à l'instant DJ Bad Poetry et à la voix et au texte Selima Atala Chetaoui. Vous la retrouvez jeudi soir dans le cadre de Écrire et Dire à la MJC du Grand Cordel dans une lecture rencontre avec Hugo Titem de Lavo. Dans la session info-concert aujourd'hui, pas une grande surprise pour vous qui étiez là tout à l'heure au début de l'émission, puisque je l'annonçais déjà, c'est notre disque d'or de la semaine, Charge of the Love Brigade pour Escapism, et Escapism, soit la rencontre de Jan Svenonius, leader des make-up de Weird War ou de Chain and the Gang, et de sa compagne à la ville et sur scène, Sandy Sideways, elle est la boîte à rythme et lui il est à la guitare et au chant. Et ça risque d'être assez fiévreux ce lundi soir grâce à Crème Brûlée au Tiana, avec aussi Billy Trofort pour un duo Weird Garage Noise de musique approximative. Soyez-y, c'est en prix libre et c'est donc au Tiana ce lundi soir. On se retrouve quant à nous eh bien, mardi pour continuer à parler poésie avec un autre invité du festival Écrire et Dire. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
One of the greats. I'm one of the greats. I'm one of the greats. I'm one of the greats. The greats were all chased down and called names. threat and crucified. The greats are all feared and resented by